France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Poésie et musique dans leur chemin contradictoire. C'était le titre d'une série d'émissions de Christian Rosset en 1996. L'émission que voici en est le troisième épisode. Il donne la parole au compositeur Claudie Malherbe et au mathématicien Pierre Luçon, auteur d'une théorie du rythme. Un dispositif radiophonique qui permet de croiser les analyses pour expliquer ce qui rapproche ou ce qui sépare l'écriture poétique et la composition musicale au fil des siècles. C'était le 2 octobre 1996 dans Euphonia.
Euphonia.
Une émission du programme musical de France Culture. Cette semaine, poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, avec aujourd'hui Pierre Luçon, mathématicien, musicien, et Claudie Malherbe, compositeur. Pierre Luçon, vous êtes l'auteur d'une théorie du rythme, montrant qu'évidemment la plupart des liens qu'on peut trouver entre l'écriture poétique et l'écriture musicale peuvent, non pas s'expliquer, mais être révélés par une analyse rythmique, à la fois de la poésie, donc de la forme poétique, et de la forme musicale. Est-ce qu'il est possible d'expliciter ça, ou c'est très difficile ?
C'est difficile dans la mesure où c'est abstrait. C'est une théorie générale et abstraite. Alors, je vais essayer de donner des caractéristiques extérieures suffisantes pour qu'on comprenne la suite. La première, c'est que cette théorie suffisamment générale, elle s'applique aussi bien à la musique qu'à la poésie, à bien d'autres choses encore, en particulier aux séquences d'ADN ou même au fonctionnement des neurones. C'est donc une théorie forcément abstraite. De quoi s'occupe-t-elle ? Eh bien, elle s'occupe de suites d'éléments qui sont donnés dans le temps. Bon, mais cette suite d'événements donnés dans le temps, on peut les considérer comme distincts les uns des autres. Il y aura une grosse discussion à faire là-dessus. Et ces événements, donc supposés discrets, sont considérés de deux points de vue uniquement. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas tous équivalents. Il y en a qui sont plus, on dit, éminents, parce que c'est neutre comme mot. Il y en a qui sont plus éminents que les uns que les autres, plus importants. Par exemple, si vous prenez une séquence poétique dans une langue accentuelle, eh bien, les syllabes qui portent l'accent seront éminentes par rapport à celles qui ne le portent pas. Mais alors, on peut prendre toutes sortes de types d'éminence. Et un événement est d'autant plus éminent qu'il n'a plus de raison de l'être. Hein ? Une syllabe qui est à la fin d'une phrase, disons, et portant sur une syllabe qui n'est pas un E muet de fin de mot, est un événement extrêmement éminent. Alors, on s'occupe donc d'événements, de ces événements discrets, et énoncés temporellement. On s'en occupe du point de vue de leur éminence relative et du point de vue de leur groupement. Ces événements ne sont pas donnés en tas, c'est pas simplement la succession bête de ces événements, mais les phénomènes de mémoire, etc., intervenant, ils sont groupés par paquets, et ces paquets peuvent prendre toutes les allures possibles, ces paquets peuvent se chevaucher temporellement, il y a des imbrications, des tuilages, comme disent les musiciens, tout ce genre de choses, qui produisent des structures extrêmement complexes, beaucoup plus complexes qu'on avait l'habitude de les considérer naïvement. Par exemple, n'importe qui considère qu'un alexandrin, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ce qui est complètement idiot. C'est quelque chose d'infiniment plus complexe et variable.
Alors, la musique, c'est un peu le... Vous pouvez faire une analyse à peu près du même ordre d'une phrase musicale.
Bien évidemment. Alors, ce qu'on appellera phrase musicale, ça sera quelque chose qui se termine par un événement extrêmement éminent, musicalement parlant. Une cadence parfaite finale dans la musique tonale, etc.
Bon. Donc, dans la relation entre poésie et musique, les conflits se font dans ces rapports, disons, entre une forme... verbale et une forme musicale.
C'est ça. Et les conflits ou les accords, qui se traitent de la même manière, se font parce que dans les deux cas, ce qu'on considère, c'est une structure abstraite, qu'on qualifie de rythmique, qui est abstraite, qui est réalisée, comme nous avons l'habitude de le dire, soit sous forme linguistique, soit sous forme musicale. Hein, la musique, c'est du rythme avec du son au bout. Alors, quelle est la différence entre poésie et musique de ce point de vue-là ? Eh bien, c'est que la poésie, c'est aussi du rythme avec du son au bout, mais c'est pas du son du même genre qu'en musique. Chacun sait qu'une note isolée en musique n'est porteuse d'aucun sens. Ce qui est faux pour une syllabe ou des petits groupes syllabiques dans la langue. Et tous les conflits en particulier viendront de ce traitement totalement différent.
L'important, c'est de noter que la poésie, c'est ce travail, disons, de forme, et pas simplement, comme beaucoup de gens le pensent, le côté poétique.
C'est ça. Alors ça, l'une des confusions dans ce genre de discussion, c'est d'ailleurs de là d'où est partie d'une insatisfaction à ce propos, qui est partie de notre chère théorie du rythme, parce que l'insatisfaction profonde des commentaires sur la forme en musique, en fait, cette théorie du rythme est une théorie de la forme. Une théorie des formes à énoncé séquentiel. Et fait intervenir le temps. Alors, c'est une chose importante de dire ça, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, musique et poésie sont strictement comparables. Mais une chose qui est à remarquer, c'est qu'il ferait une des sources des conflits, qui peut être grave ou résolu momentanément par des procédés astucieux, c'est que le temps n'intervient pas en poésie de la même manière qu'en musique. Pas du tout. Alors, pour rendre en quelque sorte les deux temps compatibles, eh bien, il faut se fatiguer. Mais ça donne quelquefois des résultats tout à fait spectaculaires. Par exemple, le cas typique, c'est celui du récitatif à la Lully. Alors, la première chose à remarquer, et qui s'entend évidemment, c'est que contrairement à ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que la musique s'adapte aux paroles d'une manière vague, c'est pas faux. En vrai, c'est infiniment plus précis que ça. C'est non pas que la musique s'adapte aux paroles, mais au système du vers, tout à fait différent. Parce que le système du vers fait intervenir la composante rythmique de la poésie.
À l'époque de Lully, finalement, on a l'impression que c'est avant tout, aussi bien pour les poètes qui écrivent les textes que pour le compositeur, affaire de technique et de savoir-faire formel.
Oui, et de techniques pratiques, et obtenues d'ailleurs dans le cas de Lully, qui était le bandit qu'on sait, par des procédés qui relèvent de l'espionnage industriel. La Champmêlée qui se faisait battre par Racine et Lully a joué un rôle d'espion industriel tout à fait intéressant. Et Lully, qui devait se méfier, étant d'origine italienne, de sa prosodie française, a pêché chez Racine tout ce qu'il y avait à en pêcher. Mais d'autre part, Racine... on chantait presque les vers de Racine. Donc le passage était assez facile du point de vue pratique.
Est-ce qu'on peut dire que les poètes ont servi d'inspirateurs, mais au sens beaucoup plus que l'inspiration comme ça, des thèmes qu'ils abordent, pour les musiciens, au sens où ils leur soufflaient presque la musique?
C'est ça. Le système qu'a trouvé Lully, et sur lequel est tombé d'instinct Lully, qui a été plus ou moins suivi avec des modifications après, a servi totalement la musique au texte, au sens où je l'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça donne le même squelette rythmique. La musique est vraiment faite pour recalquer. Alors, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que ce procédé, bien que assez contraignant, laisse quand même une marge, par exemple, du point de vue des hauteurs, de l'intonation et de choses comme ça, une marge suffisamment large qui permet d'introduire tout ce qu'on veut du point de vue lyrisme, émotion, sens et tout le Bataclan.
Larmes. Est-ce pas si divin, si doux?
Alors, il y a des solutions, quelquefois, qui donnent des effets tout à fait fascinants et singuliers. Quand, par exemple, pour Claude Lejeune, celui-ci fait des vers mesurés à l'antique, entre guillemets, parce que la métrique qu'il fait totalement contradictoire de la métrique naturelle, encore des guillemets, du français, et ce que fait Lejeune, c'est de servir cette métrique-là, ce qui donne un conflit absolument considérable entre poésie et musique. Alors, pour ce qui est de l'effet esthétique, ça, on peut laisser chacun en juger, mais c'est tout à fait singulier. Si ça a été repris quand on voulait donner une note de dérision, ce que ne cherchait pas Claude Lejeune, par exemple, l'amour est enfant, etc., ou bien du Offenbach, qui... Je suis le roi qui s'avance ce but. Ça relève du même genre d'analyse, c'est-à-dire où vous avez deux squelettes rythmiques qui sont violemment en discordance, qui n'ont aucun point de concordance. C'est la situation exactement inverse de celle du récitatif. Vous avez aussi un troisième cas intéressant, c'est par exemple les cris de Paris ou les choses comme ça des auteurs du 14e, 15e siècle, ou la bataille de Jeanne Quint ou autre chose, ou cette fois-ci, mais c'est pour des paroles très répétitives, très simples, très courtes, des syntagmes très courts, donc on ne se pose pas tellement, et en plus, vu le genre de texte le genre d'effet cherché, on ne cherche pas une compréhension de la parole très suivie.
Romantique, comment ça se passe? Parce que ça a l'air d'être l'apogée, disons, de la forme chanson, du lied, donc de l'adéquation, comme on voudrait, entre le fond et la forme, l'expression, le lyrisme, le sentiment, qu'on a évidemment facilement chez quelqu'un comme Schubert, où la relation de la poésie à la musique a l'air de couler presque de source.
Alors, ce n'est pas seulement chez Schubert, ça se pratiquait bien avant. J'aimerais citer les vers de Dryden mis en musique par Purcell comme exemple d'adéquation fascinante. Alors là, du temps de Schubert, étant donné qu'on est en monodie accompagnée, c'est assez facile. Étant donné surtout qu'on est dans une musique qui est harmoniquement très classique, les marquages que j'ai considérés tout à l'heure vont de soi. Pour l'allemand, on fait intervenir des considérations semblables à celles du français, avec la différence que, comme l'anglais, l'allemand est une langue accentuelle. Et effectivement, les valeurs relatives des accents, encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, il faut une théorie du vers allemand, de même qu'on a une théorie du vers français et du vers anglais aussi.
Est-ce qu'on peut dire que les différences entre la musique allemande, la musique anglaise, la musique française, la musique italienne sont liées à la différence des langues?
Étroitement, et à peu près, j'allais dire à peu près uniquement, non, ça serait bête, mais du point de vue qui nous occupe pour le moment, certainement. Du point de vue, encore une fois, on fait intervenir dans tout ça, aux questions de sens. Somme toute, le rythme dont je parle, c'est tout ce qu'on peut dire sur la structure formelle d'un texte ou d'une musique. en n'ayant rien dit de ce qu'on pense qu'il véhicule.
Ça serait valable même pour la musique instrumentale.
Bien entendu.
Ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab mich an jeden Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und Schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und Schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit? An deinen blanken Fenstern sangen die Lerch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell. Oh, nach zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen. Oh, nach zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich gesell. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts sehen, möcht ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts sehen. Möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Vor ihrem Hause stille stehen.
Claudie Malherbe, vous êtes compositeur, et en tant que compositeur, vous avez beaucoup travaillé avec la voix, avec des voix qui portent sans doute des textes, et on le verra, des textes poétiques plus ou moins articulés ou désarticulés. Est-ce que vous considérez un petit peu dans la tradition des compositeurs qui ont travaillé avec la poésie, et bien que vous n'êtes pas auteur, je pense, de vos textes, est-ce que vous avez tiré profit de l'écoute, par exemple, de musique ancienne, à partir des troubadours jusqu'à Guillaume de Machaut ?
Guillaume de Machaut est effectivement un bon exemple, puisque on peut dire, enfin pour ce qui me concerne, que c'est avec Guillaume de Machaut que commence l'aventure d'un texte avec une musique véritablement organisée. Les troubadours, c'est tout à fait intéressant, le chant grégorien aussi, mais c'est une organisation qui est beaucoup moins intriquée, puisque le développement de la grammaire, de la syntaxe et de la grammaire musicale à cette époque-là est pas aussi développé qu'il le sera plus tard. Et à l'époque de l'Ars Nova, donc Machaut et avant lui Philippe de Vitry, et peut-être un petit peu avant, le siècle d'avant avec Adam de la Halle, on se pose le problème de l'intelligibilité d'un texte. On sépare surtout ce texte de l'Église, c'est-à-dire que les textes deviennent profanes, on commence à raconter des choses un petit peu personnelles, et donc on commence à vouloir présenter tout ça sous une forme musicale qui devra fonctionner de concert avec le texte, et c'est là que commencent les problèmes d'intelligibilité, de confrontation entre deux organisations qui, pour fonctionner ensemble, sont néanmoins contradictoires.
Alors, l'exemple que vous avez choisi chez Machaut fonctionne comment ?
Alors c'est un exemple intéressant, puisque c'est une époque où on s'est posé d'énormes problèmes d'intelligibilité. Déjà, dans ce texte, on n'a plus qu'un seul texte à la fois, alors que précédemment, on avait jusqu'à deux, trois, peut-être même plus, textes différents qui étaient superposés. Donc là, on n'a plus qu'un seul texte, mais à trois voix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les gens étaient, puisqu'on est dans un rapport de la poésie avec la musique, c'est que on n'avait pas cette distinction qu'il y a aujourd'hui entre les poètes et les musiciens, distinction qui des fois fait un petit peu de bruit, puisque il y a un conflit entre les deux. un conflit qui peut s'expliquer d'ailleurs. Et à l'époque, les gens sont des poètes et des musiciens, et souvent aussi des théoriciens. C'est pas le cas de Machaut. Adam de Lalle est un théoricien, Philippe de Vitré aussi, mais pas Machaut. Il se contente simplement d'être poète et musicien.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Et donc, il nous propose ce « Las, comment oublierai-je » là, qui est chanté par l'ensemble du regretté David Monroe, et qui est un motet à trois voix.
Alors Claudie Malherbe, j'ai appelé cette série « Poésie, musique, chemin contradictoire ». C'est une manière de bien montrer qu'il ne s'agit pas d'épousailles soi-disant idéales entre deux genres ou deux formes. Vous-même, en tant que compositeur, vous avez donc fait des pièces, comme je l'ai dit, avec la voix, dont une qui s'appelle « Voix de femme ». Donc déjà, le titre met en évidence la voix. Quelle matière avez-vous utilisée pour cette pièce? Et comment avez-vous pu appréhender ces conflits qu'il y a entre le problème du sens et du texte, comme l'a dit Pierre Luçon, et puis l'écriture musicale et votre propre liberté de compositeur?
Alors, dans le conflit d'un texte et d'une musique, il y a deux parallélismes. C'est-à-dire que le texte se développe selon deux axes. Hein, l'axe horizontal, qui est l'axe du sens, l'axe de la succession des objets qui sont à comprendre dans un ordre précis. Et puis l'axe, un axe qu'on pourrait dire vertical, qui est l'axe paradigmatique, qui est celui de la possibilité d'échange des objets, c'est-à-dire que on peut dans la phrase le chat boit du lait, on peut remplacer le chat par un chien, par un oiseau, etc., le lait par un autre liquide quelconque. Donc on a une possibilité, une virtualité verticale, et quand on regarde la musique, c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'on a un axe horizontal qui est celui de la mélodie et du développement rythmique, et un axe vertical qui est celui de l'harmonique. La grande différence, c'est que dans la langue, l'axe vertical reste virtuel. Dans la musique, il est réel, c'est-à-dire qu'on superpose véritablement des objets dans la musique et on les entend simultanément. Ce qui fait que si on utilise, disons, cette concordance pour travailler l'un par l'autre et réciproquement, on se trouve à un moment donné à avoir une surcharge de sens, avoir une espèce d'oblitération du sens du texte par le musical, c'est-à-dire par l'harmonique, par la surcharge des objets musicaux. Et donc, ce conflit sera résolu d'une manière assez magistrale, on le verra tout à l'heure, par la mélodie accompagnée. Mais si on n'est pas dans ce paradigme de la mélodie accompagnée, on a comme solution, et généralement c'est cette solution qui déplaît au poète, que désarticuler les choses. Et c'est vrai que là, la musique sort souvent vainqueur, puisque la désarticulation du musical peut toujours reconduire à du musical, alors que la désarticulation du sens, malheureusement, conduit souvent à une perte de sens. Donc, dans cette pièce Voix de femme, qui est écrite pour 5 voix de femme, il y a un texte qui est fait sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un matériau musical qui est travaillé, et ensuite qui donne lieu à un texte qui a été écrit par Linda Psiri, qui est d'ailleurs la première interprète de cette pièce. Et La manière de travailler par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est, je dirais, de travailler selon un axe oblique. C'est-à-dire que on prend les mots, on les désarticule, on les pulvérise, on les atomise, et tout ça est recomposé dans l'espace et donne lieu à des coïncidences où le mot se reforme ou forme des bribes de phrases, ou donne lieu à des onomatopées qui vont être toujours dans ce même type de sens, mais qui vont provoquer effectivement des sens annexes.
Allez, 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 allez
Louis Mahler, vous avez parlé donc de la mélodie accompagnée. Et je crois que vous êtes intéressé à la mise en musique au début de ce siècle ou à la fin du siècle dernier du poète le plus célèbre qui est Verlaine.
Oui, choisissons Verlaine pour l'exemple parce que c'est intéressant parce qu'il est un petit peu dans toutes les oreilles. Mais on pourrait prendre beaucoup d'autres poètes et même des poètes mineurs puisque c'est un petit peu pour reprendre la phrase de Jean-Luc Godard qui disait qu'on faisait généralement pas de grands films avec de grands sujets. On peut aussi faire de bonnes mélodies ou de bonnes musiques vocales avec des textes qui sont mineurs. Fauré, qui est un grand spécialiste du genre, disait lui-même qu'il n'avait jamais utilisé la poésie de Victor Hugo parce que celle-ci était trop pleine et qu'il ne trouvait pas d'interstice pour glisser sa musique. Et ce qui est intéressant à voir dans la confrontation du poème de Verlaine, Prison, c'est de comparer ce qu'en a fait Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn, son aîné d'une trentaine d'années, mais qui... pour ce qui concerne l'esthétique et le genre, était finalement à l'unisson de Gabriel Fauré. Donc, Reynaldo Hahn, que nous allons entendre tout d'abord. Donc, on a une mise en musique d'un poème complètement traditionnel, comme d'ailleurs est traditionnelle la mise en musique du même poème par Fauré. Mais dans Reynaldo Hahn, on entend un peu le carcan de la structure musicale qui contraint le poème. Donc on a une ligne mélodique beaucoup plus dessinée que dans Fauré. On a des contours mélodiques qui sont prégnants, qui dessinent ce qu'on appelle une mélodie. Et on voit la contrainte surgir à quelques endroits quand on a quelques modulations ou quelques échappées mélodiques qui forcent un petit peu le sens du poème, même si ça reste d'un point de vue de l'académisme de cette époque pour la mise en musique d'un poème, quelque chose de réussi. On voit qu'il y a une contrainte et que cette contrainte n'est pas tellement productrice de quelque chose d'autre que simplement mettre en boîte, en quelque sorte, un poème. Et on le vérifie d'autant plus avec la fin de la mélodie où Reynaldo Hahn, le musicien, donc reprend le début de la poésie pour arriver à conclure sa forme.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi, que voilà pleurant sans cesse? Toi que
Avec Gabriel Fauré, il en va un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la ligne mélodique n'impose rien. Elle est même, d'un simple point de vue mélodique, beaucoup moins mélodique que celle de Reinaldo Hahn. Elle est beaucoup plus abstraite. Et on croit savoir que, à chaque fois que, surtout à la fin de sa vie, quand Gabriel Fauré mettait en musique une poésie ou un texte, il commençait, disons, de la manière la plus abstraite possible. C'est-à-dire, non pas en cherchant la musicalité du mot, le phrasé du rythme de la phrase, mais au contraire, en faisant à l'opposé, d'une manière complètement détachée du contexte, un plan harmonique dans lequel il notait précisément sur le papier dans quelle tonalité ça commençait, vers quelle tonalité ça évoluait, dans quelle tonalité ça allait aboutir. Et donc tout ça lui donnant un plan harmonique complètement défini par avance. La ligne mélodique arrive en dernier, elle est issue en quelque sorte du conflit entre la trame harmonique et la poésie elle-même. Et on le sent bien à l'écoute, c'est quelque chose de beaucoup plus minimal. Beaucoup de mouvements conjoints, les intervalles sont des intervalles habituels de la mélodie, c'est-à-dire quelque chose qui n'engage pas la mélodie dans une voix véritablement connaissable, c'est-à-dire des intervalles de quinte, des tierces, des choses complètement habituelles, des choses neutres. Simplement, l'harmonie en œuvre sous cette mélodie est tellement développée, tellement complexe, l'harmonie foréenne est un objet tellement abouti, que finalement, il peut donner une couleur à chaque note, même quand c'est une note répétée, même quand c'est un intervalle conjoint qui se contente de monter d'un degré ou de descendre d'un degré. Ce qui fait qu'on a l'impression, puisque c'est qu'une impression, puisque tout ça est virtuel, puisqu'on a à l'œuvre deux mécanismes complètement différents qui s'enchevêtrent, on a l'impression que la ligne mélodique coule complètement du poème, vient complètement de sa mélodie propre. À tel point que lorsque on a entendu cette mélodie de Fauré sur ce poème et que plus tard, il nous arrive de lire le poème tout seul, on réentend, enfin pour ce qui me concerne, c'est ce qui m'arrive à chaque fois, on réentend la musique de Fauré, puisqu'elle est à ce moment-là complètement mêlée au poème d'une manière inextricable. Elle a produit un troisième objet qui est la musique et la poésie mises ensemble.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là toi que voilà pleurant sans cesse, dis qu'as-tu fait toi.
Claudie Malher, vous avez écrit vous-même des textes pour vos propres musiques, donc vous êtes dans la tradition de Machaut. Finalement, les compositeurs ont parfois intérêt ou le désir ou l'envie d'être eux-mêmes auteurs complets de leur travail. Ou est-ce que vous avez comme ça le désir d'être un peu poète ?
Non, moi j'ai écrit les choses par la contrainte, c'est-à-dire voulant mettre en musique, des textes, et ayant eu plusieurs collaborations, qui sont d'ailleurs des collaborations fructueuses, j'ai vu que je faisais beaucoup souffrir les auteurs, parce que le musicien a besoin d'énormément retravailler les choses et de sans arrêt déconstruire pour arriver à finalement construire quelque chose qui est d'un autre ordre que le point de départ. Et c'est vrai que dans cette histoire-là, les poètes ou les auteurs souffrent souvent beaucoup, et que le musicien souffre aussi, puisque on a toujours un délai entre le moment où le texte est écrit et la musique se met dessus. Et pratiquement, et c'est l'expérience que j'ai fait avec mes trois duos pour voix et clarinette basse, dont le titre est Discord, c'est de composer. Je dirais pas écrire parce que je me sens pas les compétences d'un poète, mais de composer simultanément la musique et l'articulation textuelle. Donc j'ai travaillé sur les principes de génération qui sont utilisés dans le nouveau roman, c'est-à-dire à partir d'un mot que j'ai pris chez Jean Ricardou qui est Discord, qui est un mot qui est dans un texte théorique de Jean Ricardou. J'ai entièrement fabriqué le texte et la musique à partir de ce mot, c'est-à-dire par simplement une prolifération du matériau, à la fois le côté matériel du matériau, c'est-à-dire on prend les phonèmes du mot discord, on les coupe en petits morceaux, ça fait dis, ça fait corps, ça fait discord, ça fait discours, ça fait discorde, etc. Et puis tout le sens qui peut être produit aussi par cette composition sur le matériau. Donc c'est devenu une scène de ménage, une discorde, entre une voix et une clarinette, un duo dont le corps est le centre, parce qu'on a discord, et le discord veut dire l'éparpillement, et la discorde veut dire aussi la coupure entre certaines choses, donc une scène de ménage dans laquelle vont s'écharper, à travers des modes de jeu et des rythmes, des mots et des articulations de clarinette basse.
Thank you.
Alors nous allons achever cette émission avec une musique de Steve Reich qui a un rapport assez étrange à la poésie parce que finalement il n'utilise pas vraiment de la poésie dans l'extrait que vous avez choisi qui vient de The Cave comme dans d'autres œuvres de Steve Reich comme Different Trends ou d'autres. Le matériau est tout simplement un montage d'extraits d'interviews.
Oui, alors c'est ce que je trouve intéressant et c'est un petit peu dans la ligne de ce que j'avais proposé avant avec ma pièce, l'extrait de ma pièce Discord. C'est comment, en quelque sorte, poétiser un matériau qui au départ est complètement inerte du point de vue poétique. C'est-à-dire comment prendre la langue habituelle, celle de tous les jours, celle qui est usée par le sens, c'est-à-dire celle qu'on n'entend plus, dont on n'entend plus l'articulation mélodique, dont on n'entend plus le rythme, dont on n'entend plus le matériau, puisque le sens a tout pris. C'est-à-dire ce n'est plus devenu qu'une monnaie d'échange pour converser, pour échanger des idées, des informations. Mais toute la partie matérielle de la chose, c'est-à-dire tout ce qui est tous les phonèmes, tous les rythmes, toutes les mélodies de voyelles ont disparu. Et ce qui est intéressant avec le travail de Reich, qui est un travail qu'on peut faire depuis assez peu de temps, c'est qu'il y a des outils maintenant qui permettent d'analyser les sons, et entre autres le langage, la continuité de la langue, d'une parole, d'un discours. Et quand on regarde le son de l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a tout un monde qui s'ouvre, un petit peu comme si on regardait une goutte d'un liquide dans un microscope. On s'aperçoit qu'il y a toute une structuration de ce matériau qui peut donner d'énormes choses sur le plan musical. Et dans l'extrait de cette pièce de Steve Reich, qui est l'extrait qui s'appelle Who is Haggard, qui est la seconde femme d'Abraham, on a des interviews. Steve Reich a pratiqué des interviews chez les Juifs, chez les Arabes, puis chez les chrétiens, pour leur demander de raconter qui était leur ancêtre Abraham. Et ces interviews sont montées par tout petits morceaux au magnétophone, analysés, et on en tire la substance mélodique, rythmique, et même la substance timbrale, c'est-à-dire la couleur de la voix humaine. Dans cette interview, on entend trois voix différentes, et les clarinettes, les instruments avant qui font la paraphrase musicale autour de cette voix, en paraphrasant cette voix, la reproduisent, la dupliquent, et nous la font entendre progressivement différemment. Et comme c'est basé sur une structure répétitive, la phrase qu'on entend simplement parler au début, à la fin, on l'entend chanter, on l'entend rythmer, on l'entend dans une harmonie.
Someone who had a chance, but she was not able to prevail. She wasn't able to prevail.
Very pathetic. Very pathetic. Very, very pathetic. And a little aggressive. And a little. And a little aggressive.
A girl rose her nose. Rose her nose. A girl rose her nose. So I won't judge Sarah so severely. So I won't judge Sarah. So severely. So I won't judge Sarah so severely. It was very daring of her. It was very daring. Another young woman. Let another. Young woman. To let another young woman into the bed of her husband. Into the bed. bed of her husband.
Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, avec aujourd'hui Pierre Luçon, mathématicien, musicien, et Claudie Malherbe, compositeur. Réalisation Jean Priseau, Elmander Babaï. À demain, 14h30, en compagnie d'Yves Dimano, Michel Grangot et Marie-Étienne, écrivain, poète.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 octobre 1996. À suivre.